En mars dernier, dans son numéro 249, la revue Phosphore publiait une enquête sur les codes du parler jeune, c'est-à-dire sur l'expression verbale de communautés qui inventent et pratiquent les diverses variétés de français qui existent dans ce qu'on appelle désormais les cités et qu'on désigne plus généralement par banlieue. Cette enquête retrouvait, croisait les travaux de Jean-Pierre Goudaillé, professeur de linguistique et doyen de la faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne de l'université René Descartes Paris 5 et directeur du centre de recherche argotologique, c'est-à-dire du cargo. Et cette enquête a pu se développer entre autres grâce à la participation des élèves de seconde de la classe de Frédéric Châtelain, professeur de français au lycée Lursa dans le 13e arrondissement de Paris. Cette enquête présente un état des lieux concernant une variété de langues qui s'est formée dans les années 1980 et qui est parlée dans les cités. Alors mes invités sont au nombre de 3, la rédactrice en chef de Phosphore, Béatrice Toulon, Jean-Pierre Goudaillé, qui est aussi l'auteur d'un dictionnaire du français contemporain des cités, Comment tu tchatches, préfacé par Claude Agège et publié par Maisonneuve et La Rose, et vous en êtes à la 3e édition qui est revue augmentée il y a à peine un an, d'une centaine d'expressions, de mots toujours nouveaux comme coincé de la maille, pex, en avoir grave, marre, passer les gourmettes, tous heures, être dosé de quelqu'un. Enfin, 3e invité, Frédéric Châtelain, qui est aussi éditeur. Les éditions Châtelain-Julien ont publié notamment une édition critique du René Lès de Victor Ségalène, un ouvrage aussi sur la poétique de Victor Ségalène. Alors, qu'on le veuille ou non, un grand nombre de cités dans lesquelles vivent les jeunes et les moins jeunes aussi, sont considérés comme des espèces de ghettos. Alors, Jean-Pierre Goudaillé, le parler jeune dont nous allons parler, peut-il être considéré, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, comme un reflet de ces ghettos?
Alors, bon, ghettoisation, il faudra peut-être en parler de manière plus précise sur le plan social et voir effectivement est-ce que ces phénomènes sont poussés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a vraiment une ghettoisation par des pratiques sociales et des pratiques langagières et linguistiques. En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des pratiques identitaires. C'est-à-dire que dans des cités, on a à la fois des deux souches, comme on dit maintenant, puisque par la férèse du mot français de souche, on parle de deux souches. Donc on a des deux souches, on a aussi des personnes issues de l'immigration, on a des personnes qui sont des personnes étrangères, au sens général du terme, et tout ça crée un vivier, ou un vivoir, comme diraient nos amis canadiens, un véritable réservoir, comme vous disiez vous-même, un laboratoire de langue, et chacun va vouloir marquer sa propre identité dans la langue. C'est-à-dire qu'on va avoir des réflexes identitaires. Celui d'origine française va vouloir marquer la langue avec ses vieux mots de langue française, avec son argot traditionnel, et puis l'Africain va vouloir mettre aussi un peu de Wolof, un peu de Bambara, un peu de Swahili, et quant au Maghrébin, il va vouloir mettre un peu de berbère, un peu d'arabe, et donc chacun va vouloir marquer, comme je dis maintenant, taguer la langue avec ses propres marques d'origine. Alors ça vous donne une espèce de, je sais pas, de chaudron linguistique dans lequel des tas de choses sont en train de fourmiller, et donc on constate des, alors ce que j'appelle des mots métissés, c'est-à-dire des mots du mélange. C'est que le métissage linguistique est là, devant nos yeux.
Une sorte de mot valise.
Alors, bon, le mot valise peut être une façon de métisser les mots, mais je vais en prendre un exemple parmi d'autres. Ben, justement, un mot qui peut être du type valise. Vous avez, par exemple, le verlan de frère. Frère, c'est frère, frèreux, refrais, ref. Alors, ref, bon, c'est, on le connaît, c'est le frère. Mais quand on veut dire un grand frère, celui qui a le droit, même beaucoup de droits sur les petites sœurs dans la communauté maghrébine, on va parler du da, ref. Et le da vient du berbère. Da, ça indique en berbère celui qui a le droit d'aînesse dans la fratrie. Donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment le frère aîné, celui qui a un peu le droit presque de vie et de mort, entre guillemets, sur l'ensemble de la fratrie. Et voilà que ce da, ref, est bien un mot métissé, puisqu'on a du français verlanisé, plus un préfixe qui est du berbère. C'est vraiment un préfixe berbère. Bon. Voilà un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres. Je peux prendre l'exemple de carbichounette. Alors, carbichounette, ça paraît tout à fait gentil comme terme. Mais carbichounette, c'est quoi? C'est carba. C'est quand même de l'arabe. Ça veut dire la prostituée. Choun, c'est des formations phonétiques du sexe féminin en berbère. Et et, le suffixe du français. Et voilà que carbichounette, c'est du berbère, de l'arabe et du français.
Voilà. Mais justement, parce que là, il y a une violence verbale.
Ça désigne la femme.
Mais est-ce que cette violence verbale qui se manifeste peut être mise en rapport avec une fracture sociale? On pourrait parler de fracture linguistique par rapport à une fracture sociale. Vous associez les deux.
D'autant plus que fracture linguistique, j'en suis l'auteur. J'ai proposé, suite à justement fracture sociale, c'est un peu justement ce qui m'a fait repérer sur le champ de cette description des parlers, hein, des formes véhiculaires que l'on a actuellement dans les cités. Puisque c'est bien parce qu'il y a fracture sociale, qu'il y a production de langues autres que celles qu'on est en droit d'attendre à un moment déterminé. Qu'est-ce qu'ils me disent les jeunes dans les enquêtes? Ils me disent pourquoi est-ce qu'on a parlé comme vous, les costards cravates, nous, les casquettes baskets? Quelle raison aurions-nous, nous, de parler le même français que vous? Alors on travaille actuellement dans le centre de recherche sur quelque chose qui nous interdit depuis un certain nombre d'années. J'ai même lancé des étudiants sur la question. La langue en miroir. Le verlan, ça peut paraître. Alors, verlan, on sait très bien que c'est plutôt la région parisienne qui parle verlan. Les parlers régionaux en France ont permis une alimentation d'un ensemble de parlers des cités. Si on va à Marseille, on voit très bien qu'on a du Corse, on a du Provençal.
On va y revenir d'ailleurs.
On va y revenir.
Sérier des problèmes.
Alors, si on prend le cas du verlan, langue en miroir, je prends ta langue, je te la mets à l'envers et je te la renvoie. C'est pas innocent. Ça peut être inconscient. Mais c'est quand même pas innocent comme processus.
C'est un phénomène de refus, finalement, de l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, je ne vais pas refaire du Bourdieu, mais il y a quand même des choses qui se passent. Je veux dire, on ne va pas quand même dire que dans les cités, on a affaire à des personnes qui, sur le plan socio-économique, sont favorisées. Je crois que sans pratiquer le féminisme, on est plus dans le cas contraire et qu'une pression est exercée par la société sur des communautés, qu'elles soient française d'origine ou qu'elle soit d'origine émigrée ou incorporée sous forme d'assimilation ou sous forme de autre dans le cadre de la société française. Il est bien sûr qu'une pression est exercée sur eux et c'est une réaction. C'est-à-dire qu'on a une violence sociale exercée et en réaction, il y a une gestuelle parmi d'autres qui est la gestuelle langagière et qui permet d'exprimer justement cela par le langage je suis autre. On exprime notre révolte. On peut donner les termes qu'il faut, au travers du langage. Alors, tous ne sont pas là-dedans, mais un certain nombre, ils sont réellement, parce qu'une pression est exercée. C'est un peu de l'Archimède, cette histoire-là. Exercer une pression par le haut, et ben le bas va vous renvoyer quelque chose.
Et là, nous sommes dans les cités, mais il y a aussi les établissements scolaires. Frédéric Châtelain, vous êtes dans le 13e arrondissement. Est-ce que vous pouvez situer cette classe de seconde, son recrutement, sa population, pour qu'on comprenne un petit peu la composante de cette classe, qui finalement est aussi une classe dans laquelle un certain nombre de problèmes qu'on a dans les cités vont se retrouver.
Là, c'est une classe de seconde, je dirais lambda, pour la périphérie parisienne, ou en tout cas les arrondissements périphériques. Donc j'ai environ dans une classe de 32 élèves, 7 élèves d'origine européenne, donc un grand mélange de langues, d'origine, de communauté. Et ce sont des élèves normaux, enfin sympathiques, agréables, avec des problèmes que beaucoup d'enfants de cet âge-là ont, des originaires de cités, HLM du 13e arrondissement, mais qui ne me paraissent pas être très différents de ce qu'on voit en banlieue ou dans des établissements parisiens moins sélects, quoi.
C'est-à-dire que vous avez des Asiatiques, des
Asiatiques,
Maghrébins
et... Beaucoup de Maghrébins, des Portugais, j'ai des Réunionnais, beaucoup d'Antillais, des Pakistanais, enfin c'est très mélangé. Et vous disiez que les élèves, enfin, incorporaient à leur langue des mots de leur culture familiale. Je trouve que, à mon sens, c'est plutôt un élève qui est meneur parce qu'il porte des vêtements, son comportement est un comportement de rebelle et donc il est suivi par ses camarades, emploie des mots qui sont repris après. Les mots du langage gitan, les mots du berbère, de l'arabe, même du portugais, sont repris par les élèves qui suivent ou qui imitent ce leader.
Et le langage gitan vient d'où?
À Paris, ça a une raison, je crois, assez spéciale, c'est que beaucoup d'élèves du 13e arrivent du 14e arrondissement, d'un collège du 14e, où les gitans sont scolarisés à Paris. Donc ils ont emprunté à leurs camarades de collège ces mots. Bon, dans ma classe, c'est réduit à peu de mots, c'est gadji, gadjo, enfin, c'est réduit au basique du gitan, si vous voulez.
Mais ce sont des mots que vous entendez surtout, pas tellement dans la classe, mais plutôt
dans le couloir, dans l'interclasse. Enfin, ce qui est frappant, c'est que durant le cours, les élèves font un vrai effort pour adhérer au code qu'on apprend à l'école. Il y a une volonté, un désir d'accéder au code des costumes cravates, comme vous disiez.
C'est indéniable.
L'interclasse se déroule parfois dans la salle de cours, et durant cette interclasse en cours, il y a une sorte de commutation, et les élèves reprennent leur langage, même si on est dans la salle, mais on n'est plus en cours. Et ça, c'est assez frappant.
Mais c'était un groupe qui n'est pas homogène. Donc, par exemple, les Asiatiques ne réagissent pas de la même façon que,
oui,
que les Africains.
J'ai le sentiment, alors ça, c'est de la sociologie sauvage que je fais, que les Asiatiques sont beaucoup plus dans un désir d'intégration, d'assimilation, de conformisme que leurs petits camarades. Et donc, ces élèves-là connaissent très peu de mots de Verlan. Durant l'enquête de Phosphore dans la classe, les élèves étaient complètement abasourdis par les mots que leurs camarades connaissaient. Ils n'ont pas cette culture de la langue jeune, de l'argot scolaire, de l'argot potache. Au contraire, c'est plutôt des élèves qui luttent véritablement chaque jour, pied à pied, pour acquérir, thésauriser les mots du langage soutenu et des costumes cravates.
Mais comment est-ce que les élèves réagissent quand ils s'aperçoivent que vous vous intéressez à leurs mots?
Bon, au départ, enfin, il y a l'espèce de code qui est brisé, le prof qui s'intéresse à leurs mots, donc c'est toujours un petit peu, on joue là-dessus. Mais très rapidement, les élèves découvrent que ce langage qu'ils emploient est destiné à échapper à l'autorité. Donc, ils lâchent quelques mots, et puis ils se rendent compte au bout d'un quart d'heure que, mais en fait, si je lui dis ça, il va savoir ce que je dis après. Donc, cette fonction de l'argot, qui est bon, classique, mais historiquement repérée, vous l'aviez signalé, elle leur apparaît consciente au bout de très peu de temps. Donc, monsieur, si on vous le dit, après, on ne pourra plus le dire devant vous sans que vous nous compreniez. Donc, il va falloir qu'on change de mot. Mais bon, je crois que dans ces classes-là, c'est des élèves qui sont très, 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 très sympathiques, agréables, quoi. Et le plaisir de communiquer aux profs ce qu'eux savent et qui est leur savoir passe par-dessus tout.
Béatrice Toulon, en publiant dans Phosphore votre enquête sur les codes du parler jeune, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Est-ce que vous avez essayé de faire passer un message? Est-ce que vous avez simplement voulu refléter un état des lieux, refléter une situation aussi?
Un peu les deux, c'est-à-dire qu'au départ, c'est sûr qu'on voulait refléter cette vie intense langagière des jeunes. Et puis, on a voulu quand même aller voir si c'était au fond purement du jeu, comme ça, ou s'il y avait quand même finalement une culture, une vraie culture de cette langue, si elle correspondait à quelque chose plus en profondeur et même historiquement, je dirais. Et on a fait des tas de découvertes quand même intéressantes et je dirais même valorisantes pour ces jeunes qui inventent cette langue, puisque au fond des linguistes travaillent dessus et donnent beaucoup d'explications. Et au fond, même les jeunes qui utilisent ces phrases, ces mots, ne savent pas qu'en fait, par moment, ils utilisent tout à fait un vieux système argotique bien connu au XVIIe siècle. Et par quel miracle, ces gosses de banlieue ou d'endroits comme ça arrivent finalement à fonctionner de cette manière. C'est quand même extraordinaire.
Vous avez donc traduit un aspect un peu jubilatoire, ludique, qui transparaît bien dans ce numéro, mais est-ce que vous n'avez pas cherché quand même à atténuer un petit peu la violence verbale de cette expression des jeunes, par exemple à canaliser notamment la violence sexuelle qui s'exprime dans le vocabulaire des jeunes?
Alors, on n'a pas voulu l'atténuer, mais disons que il est certain, on peut pas nier. Il y a deux choses. Hein. Il y a de toute façon une violence des mots qui est utilisée dans le langage d'une manière générale sans qu'il y ait forcément, qui est utilisée par une grande partie des jeunes. Une bombe, si vous voyez, finalement toute une bombe, une mururoa, criminelle, une belle fille. Alors c'est bon, c'est flatteur, mais enfin c'est quand même un peu violent. Mais c'est vrai qu'il y a
quand
même...
C'est
drôle, c'est imagé, bon, voilà. Mais c'est vrai quand même qu'on a été impressionnés, c'était d'ailleurs intéressant, parce que c'était assez clivant entre des univers de jeunes. Il y avait dans certaines banlieues, donc cités, énormément de ce vocabulaire qui portait sur la sexualité. Alors, les jeunes d'autres milieux, qu'on est allé interroger aussi, partageait beaucoup de ce vocabulaire sur des tas d'autres domaines, mais ils lâchaient assez vite sur la sexualité. Ils étaient beaucoup, beaucoup moins riches, je dirais, en vocabulaire, ce qui veut dire quelque chose.